Fait que bonsoir à tous. Pour lundi prochain, je ne suis pas sûr si je vais pouvoir me connecter parce que je vais être sur la route une bonne partie de la journée. C'est que j'enverrai un message à Denis pour qu'il avertisse. C'est ça. C'est que si vous, on va continuer dans notre étude dans Ruth. On était dans le chapitre 2 du livre de Ruth. On avait vu la semaine passée, on avait parlé que c'est vraiment dans l'entretien de Boaz avec Ruth. Il s'était informé d'elle, du serviteur, on a parlé du serviteur qui nous fait penser au Saint-Esprit que le Seigneur a donné pour diriger les siens. Puis il s'est informé d'elle, ensuite il s'est adressé à elle. Puis il lui a offert de l'eau, il a offert à manger, tout ça, on avait parlé de ça. Puis on avait parlé aussi quand elle devait tremper son morceau de pain dans le vinaigre, on avait parlé des souffrances du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. Puis là, on était rendu à ce moment-là. On va commencer à lire à partir du verset 13, c'est la demande de Ruth, elle dit au verset 13, et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider aussi dans notre étude. Seigneur, notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole qui est si merveilleuse, si profonde, si grande. On te remercie parce qu'à travers ces choses que tu nous as données, tu te fais connaître à nous, tu te révèles à nous. Et on voit, Seigneur, combien tu es miséricordieux, combien tu es gracieux aussi envers nous, combien, notre Dieu, tu te plais à bénir abondamment comme nul autre ne peut le faire. On te remercie pour ça, Seigneur. On te remercie pour ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on avait vu ça, qu'elle trempait son morceau dans le vinaigre, que ça nous faisait penser aux souffrances que le Seigneur Jésus a eues pour nous sauver de nos péchés. Mais on voit ici au verset 15, au verset 14, elle dit Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Donc, elle reste dans la présence, en compagnie des moissonneurs. Puis, elle se trouve bien. C'est comme ça quand on vient avec ceux qui appartiennent au Seigneur. On est bien dans leur présence quand on recherche la bénédiction du Seigneur, quand on recherche le salut. On est bien, mais il nous dit dans la parole que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes, mais à ceux qui veulent rechercher la justice de Dieu, bien, c'est là qu'on trouve avec les moissonneurs, elle demeure avec eux autres. Mais elle reçoit ce qu'on lui donne. Parce qu'on voit qu'avec le Seigneur, il n'est pas débiteur de personne, puis il donne toujours en abondance. Mais elle reçoit des moissonneurs, puis elle est rassasiée avec ce qu'elle reçoit. Puis aussi, elle garde le reste. Il y en a, puis il en reste un peu comme quand le Seigneur a fait la multiplication des pains. Eh bien, tout le monde a été rassasié, puis il en a resté. Dans les deux instances, il a resté, puis il a dit de ramasser ce qui restait. C'est ça qu'elle fait ici. Elle a ramassé, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis quand on pense qu'elle garda le reste, mais elle avait un but en gardant le reste, elle voulait le partager avec sa belle-mère. On le voit au verset 18. Elle dit, elle emporta et rentra dans elle emporta les fins d'orge qu'elle avait glanées. Elle rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Donc, elle avait pensé aussi à sa belle-mère, puis elle a partagé ce qu'elle avait mangé. Elle en avait gardé pour sa belle-mère. Vous savez, quand la parole de Dieu fait son effet sur nous, et par le Saint-Esprit, bien, on veut le partager. Les choses qu'on découvre dans la parole, on veut les partager. En verset 15 et 16, on voit maintenant qu'elle passe à l'action. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Puis elle passe à l'action, elle va continuer de glaner. On est encore dans le chapitre, comme on avait dit, c'est le chapitre qui nous parle du service de Ruth. Donc elle est encore à servir. Elle ramasse, elle va glaner. Elle ramasse ce qu'elle peut, mais on voit aussi que Boaz, dans sa bonté, il s'assure qu'elle va en avoir assez. Il dit au verset 15, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner. C'est-à-dire, il dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais parce qu'elle recherche, parce qu'elle travaille pour glaner, pour moissonner, pour avoir du blé, ben lui, il va y en donner aussi. Il va s'assurer qu'elle va trouver pour ce qu'elle a besoin. Parce que Boaz est généreux. Puis c'est ainsi que ça nous parle, comme on a dit toujours, c'est un type du Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus, il est généreux envers nous. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais au verset 17, on voit, elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Donc on voit ici qu'elle a glané un épha d'orge. Puis un épha d'orge, ça représente la portion pour 10 jours. C'est sûr que là, c'était le temps de la moisson, mais il fallait faire des provisions. Et ça représente la portion de 10 jours, parce que selon ce que la manne qu'on ramassait pour chaque jour, quand on ramassait la manne, on devait en ramasser un homer par personne par jour. Dans Exode 16, au verset 16, il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse, en parlant de la manne, ce qu'il faut pour sa nourriture, un homer par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Donc, ceux qui allaient ramasser la manne, ils devaient s'assurer qu'il y avait un homer, c'était la portion pour une personne, puis ils devaient en ramasser pour les gens de leur tente. C'est ce que Naomi, pas Naomi, mais Ruth fait aussi. En ramassant, en glanant, elle pense à sa belle-mère aussi. Mais dans le verset 36 d'Exode 16, il nous dit, l'homer, c'est une mesure, une unité de mesure. L'homer, c'est la 10e partie de l'épha. Donc, si un épha, ça donne 10 homers. Donc, c'était pour la portion pour 10 jours, pour une personne. Mais il y a une chose avec la parole de Dieu est vivante, puis elle peut satisfaire ceux qui la recherchent, ceux qui cherchent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours satisfaire l'âme qui a besoin. Puis même c'est quelque chose de merveilleux avec la parole, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et pénétrante. Et une chose qui est remarquable avec la parole de Dieu, c'est que les mêmes passages peuvent satisfaire les plus jeunes comme les plus vieux. Naomi était plus vieille que Ruth, mais la même nourriture, dans les mêmes passages qu'on lit dans la parole de Dieu, le jeune va trouver ce qu'il a besoin, puis la personne plus âgée dans le Seigneur va trouver aussi selon son besoin. Puis c'est remarquable avec la parole de Dieu. On lit le même livre, mais on n'est pas tous à la même place de compréhension ou la même capacité de compréhension, mais plus on peut approfondir chaque verset d'une façon plus profonde à mesure qu'on grandit dans la parole de Dieu, puis on vient à s'apercevoir qu'il y a des détails qui sont donnés dans la parole de Dieu, puis c'est toujours significatif. Quand il y a des détails qui sont donnés, on en vient à chercher dans les détails des raisons pourquoi c'est dit comme cela. Puis la parole est comme ça. Fait qu'on lit la même, on a les mêmes portions, mais on retire chacun ce qu'on peut avoir besoin. Chacun retrouve ce qu'il a besoin pour la journée. C'est là l'importance d'avoir une discipline à chaque jour de se nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais mettre trop d'emphase dessus, que tous les chrétiens doivent passer un temps chaque jour dans la parole de Dieu. Vous savez, dans notre corps physique, on a besoin de nourriture. Puis quand on manque de nourriture, bien, on a un instinct on a la faim qui vient, qui nous incite. Des fois, c'est difficile de contrôler notre faim parce que des fois, on fait même des abus. Mais dans le côté spirituel, c'est la même chose. Si on ne se nourrit pas à chaque jour de la parole de Dieu, bien, on va manquer. On n'aura pas la satisfaction spirituelle qu'on a besoin. On n'aura pas non plus la nourriture qui va nous garder parce qu'on va vivre des circonstances. Puis dans les circonstances qu'on vit dans la journée, mais le Seigneur nous donne, quand on a passé du temps dans sa parole, il va nous préparer pour les circonstances de la journée. Puis vous savez, quand on lit la parole de Dieu à chaque jour pendant des années, bien, on devient de plus en plus connaissant de la parole de Dieu. Puis on peut en ressortir de plus en plus selon nos besoins, puis selon les besoins des autres aussi. C'est pour ça qu'elle va partager son repas avec Naomi. Au verset 18, on voit que c'est ça qu'elle fait là. Elle l'emportait, rentrait dans la ville ce qu'elle avait glané. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Ça, c'est quelque chose aussi par rapport à la parole de Dieu qui est important, c'est de partager ce qu'on découvre dans la parole de Dieu. Vous savez, quand on partage, ça nous aide à formuler qu'est-ce qu'on a dans notre pensée, ça nous aide à formuler ce qu'on a découvert dans la parole de Dieu pour être capable de l'exposer à quelqu'un d'autre. Puis ça nous aide beaucoup dans notre compréhension. Vous savez, si on fait juste lire sans jamais partager, on ne formule pas d'une façon organisée la pensée qu'on a trouvée dans la parole de Dieu pour la partager avec quelqu'un. Quand on doit la partager, puis, vous savez, on a une réunion de prière le matin sur Zoom, puis on nous demande à différents temps de partager quelque chose qu'on vient de lire dans la parole de Dieu. Puis quand on le formule pour le partager, ça nous aide. Puis ça nous aide aussi à mémoriser la parole de Dieu parce qu'on l'a compris. Quand on le partage, ça nous le repasse une deuxième fois. Puis aussi, ça profite aux autres. Vous savez, le Seigneur, il veut qu'on partage sa parole ensemble. Parce que si on est ensemble puis qu'on se partage la parole de Dieu, on va grandir beaucoup plus vite que si on est tout seul. C'est de là, comme le berger rassemble ses brebis pour les nourrir, puis aussi pour les protéger. Donc, dans le rassemblement des chrétiens, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne devrait jamais négliger, parce qu'on a besoin d'être ensemble. Le Seigneur nous veut ensemble pour qu'on puisse s'encourager, s'exhorter, puis aussi se provoquer à l'amour, puis aux bonnes œuvres. Donc, c'est important de partager pour le profit des autres, puis pour grandir plus vite. Mais au verset 19, on voit que sa belle-mère lui dit, parce que c'était un peu comme au verset 1, il nous était présenté Boaz avec ses caractéristiques, mais il ne l'était pas présenté à Ruth à ce moment-là. Elle va le découvrir à travers le chapitre. Nous, on a mis le focus sur Boaz, le premier verset, pour le connaître, puis Ruth, elle le découvre à travers le chapitre. Mais Naomi, elle n'était pas là non plus avec l'entretien de Boaz avec Ruth. Elle ne sait pas. Ruth, elle arrive le soir après avoir glané dans la journée. Puis là, elle partage les événements de la journée avec Naomi. Puis là, Naomi, elle est mise au courant de ce qui s'est passé. Probablement qu'elle priait pour Ruth. Mais là, maintenant, elle a le résultat de ce qui s'est passé dans la journée. C'est elle maintenant qui va apprendre tout ce qui s'est passé, comment Boaz s'est entretenu avec Ruth, comment il a partagé son pain, il a donné de l'eau à boire, puis tout ce qu'elle a glané. Elle va y faire part de ça. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Donc, elle avait un intérêt pour ce qui s'était passé avec Ruth dans la journée. Puis là, elle dit, béni soit celui qui s'est intéressé à toi, parce qu'elle voit bien qu'il y a eu un résultat. Elle arrive avec un épha d'orge qu'elle a glané, Puis donc, il y a quelqu'un qui lui a fait, qui lui a été, qui a été généreux envers elle, parce que c'est quand même bien à cause que, du fait que Boaz avait, il avait dit de ne pas l'inquiéter, de la laisser glaner entre les gens, puis même de lui laisser des épis qu'elle pourrait glaner. Donc, c'est pour ça qu'elle arrive avec le montant qu'elle a, puis Naomi peut voir la générosité de celui chez qui elle a glané, puis elle lui demande ça par intérêt. Puis elle dit, qui béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Donc, tout ce qui s'est passé, maintenant, Naomi est mise au courant, puis Ruth va lui révéler. En partageant ce qui s'est passé, Naomi, qui est plus connaissante de la façon que les choses se passent avec le peuple de Dieu, va pouvoir lui expliquer. Comme là, Ruth, elle a vécu ces choses-là, mais Naomi, elle, qui vient du peuple d'Israël, qui est une Israélite, eh bien, elle sait comment ça se passe dans le peuple de Dieu, puis elle peut lui expliquer. C'est pour ça que des jeunes, des gens qui viennent de s'approcher du Seigneur pour être sauvés, ben c'est bon qu'il y ait les. Puis le Seigneur, ça arrive parfois que quelqu'un peut être sauvé seulement avec la parole de Dieu tout seul. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça peut arriver. Puis j'en connais qui sont, c'est leur est arrivé, mais ça n'arrive pas souvent parce que, puis je crois que le Seigneur permet toujours que ce soit avec d'autres, parce que quelqu'un qui vient de, en connaissance du salut de Dieu, il a besoin de d'autres pour l'aider, puis le diriger, puis l'encourager dans ces choses-là. Puis je trouve que quelqu'un qui a trouvé le Seigneur tout seul dans la parole de Dieu, il devient méfiant des autres. Tandis que celui qui était entouré de ceux qui lui ont présenté l'Évangile, ben, il y a un certain respect pour celui qui lui a présenté l'Évangile ou celle qui lui a présenté l'Évangile. Puis, il va être ouvert à avoir des instructions, comme on voit ici avec Naomi. Naomi va donner des instructions à Ruth. Puis, c'est des bonnes instructions parce qu'elle sait comment ça fonctionne. Puis, ça va aider à Ruth. On voit toujours dans ça que Ruth obéit toujours à ce que Naomi lui dit. Parce qu'elle veut vraiment avoir la bénédiction. Elle recherche vraiment la bénédiction. On va voir ça. Une entière bénédiction. Puis, en suivant les instructions, ben, ça va lui faciliter la tâche parce que Naomi sait comment que ça fonctionne dans le peuple de Dieu. Donc, elle est plus connaissante de la façon que les choses se passent pour pouvoir lui expliquer ces choses-là. Pour Ruth, ce qui est important dans toute la situation, c'est elle lui dit, elle lui parle, quand elle demande la question, elle dit, l'homme chez qui j'ai travaillé. Donc, pour elle, ce qui est important dans ce qu'elle a perçu de sa journée, c'est Boaz. C'est l'homme. Elle parle de l'homme et son nom est Boaz. Puis ça, c'est vraiment, ça devrait être remarquable pour tout chrétien que ce qui devient le plus important dans leur pensée, dans leur cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait toute la différence. C'est lui qui a pourvu pour qu'on puisse être sauvé. C'est sa parole qu'on lit. Tout est en rapport avec lui. Puis la parole de Dieu nous parle de cela comme le premier amour. Oui, c'est l'amour en premier, quand on vient d'être sauvé, mais ça devrait être toujours, on ne devrait jamais abandonner notre premier amour. Puis notre premier amour, c'est que lui occupe la première place dans notre affection, dans notre cœur. C'est lui qui devrait toujours, un chrétien qui n'a pas le Seigneur Jésus comme le centre de son affection, il fait fausse route. Il fait fausse route. On voit les gens qui se tournent vers des fausses doctrines. Ces fausses doctrines deviennent plus importantes que toute autre chose. Puis ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut rester attaché au Seigneur Jésus. C'est lui qui devrait avoir la première place dans notre vie. C'est lui qu'on devrait. Quand on parle de. Puis vous savez, souvent, on voit des chrétiens, ils parlent de leur église, ils parlent des gens dans leur église, leur pasteur. Mais on devrait parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, si on a. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui, c'est à cause de lui, même notre communion ensemble qui est merveilleuse, que c'est une communion qui est une grande bénédiction, mais elle est basée sur lui. Et voici, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La communion dont on jouit, c'est la communion du Père et du Fils qui nous partage avec nous autres. Le Seigneur Jésus a parlé dans Jean quand il priait, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Donc, on est entré dans cette communion-là du Père et du Fils. Puis ça devrait être vraiment l'objet de notre affection, de notre cœur. C'est ça, c'est de ça qu'on devrait parler. Puis c'est pour ça que Ruth a dit ici, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Elle a appris des choses à propos de cet homme-là. Elle a appris sa générosité. Elle a appris comment, elle lui parle, elle dit, comment tu t'es intéressée à moi qui suis une étrangère. Puis elle a vu vraiment la bonté de cet homme-là, elle a vu la générosité de cet homme-là, elle a vu comment cet homme-là s'intéressait à elle. Comment, puis c'est ça qu'on retrouve quand on s'approche du Seigneur Jésus-Christ. On voit que le Seigneur, quand il voyait les foules, il était ému de compassion pour les foules parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'avaient point de berger. Parce que les chefs religieux s'en occupaient pas comme ils auraient dû s'en occuper, mais le Seigneur, lui, il voulait s'en occuper. Puis c'est ça qu'on découvre. C'est pour ça que les brebis en Israël qui voyaient le Seigneur Jésus, il les nourrissait, il les enseignait, il les guérissait, il leur faisait toujours du bien, allant partout, puis il faisait du bien partout où il allait, puis les gens étaient attirés vers lui, parce qu'il était un vrai berger, un berger qui même un berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Donc elle était épris de cet homme-là, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. C'est sûr qu'au début, on connaît peut-être une connaissance limitée, mais au moins elle connaît son nom. Elle sait comment il s'appelle. Elle sait que c'est un homme, puis elle sait que c'est un homme généreux aussi, puis elle va continuer à avancer dans cette générosité-là. Mais quand elle dit ça, ça suscite toute une réaction à Naomi ici. Au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Elle lui dit encore, Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Donc, quand elle a prononcé le nom de Boaz, pour Naomi, ça a suscité cette réaction-là. C'est un peu comme si Naomi, tout d'un coup, là, elle pouvait voir la main de Dieu. Ils sont revenus à Bethléem, Juda. Ils recherchent la bénédiction de Dieu qu'ils avaient perdue. Puis là, elle voit à travers ça que Dieu est dans l'histoire. Dieu est au contrôle. La main de Dieu se manifeste dans le fait qu'il a conduit chez Boaz, puis que Boaz, non seulement elle a été conduite dans le champ de Boaz, mais comment que Boaz s'est intéressé à elle qui était une étrangère. Donc, elle voit vraiment la miséricorde de Dieu qui agit dans les circonstances. Puis elle reconnaît que c'est la même miséricorde de Dieu qu'ils avaient expérimenté auparavant quand elle avait son mari et ses enfants. Donc, elle avait connu cette miséricorde-là, mais elle l'avait perdue de vue. Puis vous savez, pour un enfant prodigue qui revient, ben, il va reconnaître ça parce qu'il l'avait déjà connu auparavant, mais on oublie quand on s'éloigne. Mais quand on revient, ça revient. C'est pour ça que quelqu'un qui s'est détourné du Seigneur, quand il revient, ben, il va reconnaître le caractère de Dieu, le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Puis ça l'encourage parce qu'il sait comment il est. Puis elle, c'est ça qu'elle voit. Elle avait déjà expérimenté cette miséricorde-là de Dieu. Ça me fait penser au psaume 136. Le psaume 136, c'est un psaume qui nous parle beaucoup de la miséricorde de Dieu. Puis il y a 26 versets dans le psaume 136 qui se terminent tous. Et chacun d'eux se termine, car sa miséricorde durera toujours. Puis il nous dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde. Puis il y a tout le psaume qu'on lit ici, ça nous donne le caractère de Dieu, puis, mais ce qui est en priorité. Si ce qui fait que nous, on est béni, c'est qu'il est miséricordieux. Puis on a tellement besoin de sa miséricorde à cause de notre péché. Puis, mais il veut nous donner vraiment, on voit là, dans sa miséricorde, il nous épargne ce qu'on mérite, la punition qu'on mérite. Mais quand on considère Dieu, on considère Dieu dans ses agissements envers l'homme, on ne peut que remarquer sa miséricorde. C'est ça qu'on vient. Quand on vient à lui, ceux qui viennent puis qui se croient justes, ils ne voient pas sa miséricorde. Comme le pharisien qui disait en lui-même, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ingrats, puis toutes ces choses-là, adultères, et même comme ce publicain. Ben, lui, il ne peut pas voir la miséricorde de Dieu. Mais le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, puis se frappait la poitrine. Il disait, sois miséricordieux envers moi qui suis un pécheur. Mais ben, lui, il a reconnu la miséricorde de Dieu parce que Dieu l'a reçu. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il fait, il l'a reçu. Puis quand on considère Dieu dans ses agissements envers l'homme, on ne peut pas faire autrement que remarquer sa miséricorde. Puis même, il y a des chefs religieux étaient offensés. Ils disaient, ah, ils mangent avec des pécheurs, avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Puis le Seigneur leur a dit, ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Mais c'est ceux qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Puis le Seigneur, il se tournait vers eux parce qu'il recevait son message. Puis il disait même que les prostituées allaient les devancer, les chefs religieux, dans le royaume des cieux parce que les autres, ils voyaient leur péché. Ils étaient déjà en avance sur les autres. Les autres, ils voyaient leur justice, leur propre justice. Mais les pécheurs voient leur péché. Puis c'est ceux qui peuvent connaître la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est de ne pas donner ce qui est mérité comme punition. C'est ça la miséricorde de Dieu. Parce que si le Seigneur nous traitait selon nos péchés, on pourrait pas subsister. La grâce, elle, c'est de donner une faveur qui n'est pas méritée. Puis ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Puis Dieu est miséricordieux. Dieu est gracieux. C'est tellement merveilleux de pouvoir venir à lui comme ça. Puis c'est ça que Naomi, elle voit maintenant, là. Elle voit que c'est la miséricorde. Ruth a rencontré la miséricorde de Boaz, la grâce de Boaz. Mais aussi, ça va venir à elle aussi. On va voir ça. Parce que Naomi, maintenant, elle peut entrevoir comment ça va se terminer. Parce que quand c'est parti de ce sens-là, elle sait comment ça va se terminer. Au verset 1. Comme on était introduit, nous autres, Boaz était un parent de son mari, Élimélec. Maintenant, Naomi le constate et le fait savoir à Ruth. Elle dit à cet homme-là, parce qu'elle dit, cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Donc, c'est notre parent, il a le droit de rachat. Elle comprend tout ce que ça veut dire ici, là. Elle voit briller la lueur de l'espoir. Parce qu'elle dit, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Puis le droit de rachat ici, c'est le mot Goël. Goël, c'est le rédempteur. On avait parlé au début c'est le rédempteur. C'est celui qui est assez proche dans la famille pour exécuter le rachat, pour redonner l'héritage, puis redonner la bénédiction. On va aller dans Lévitique au chapitre 25. Il y avait une loi parce que les propriétés en Israël étaient données pour rester en permanence à celui qui l'avait, puis le transférer à sa génération après. C'est pour ça que dans les tribus d'Israël, chacun avait sa portion dans sa tribu, dans son territoire, puis ça devait toujours rester. Puis Dieu avait fait une loi que si quelqu'un venait à être pauvre, puis devait vendre, eh bien, ça devait lui revenir. Puis il y avait une loi pour ça. Si on va dans Lévitique au chapitre 25, les versets 47 à 49, il nous dit ici, Lévitique 25, verset 47, il nous dit, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Donc, Dieu avait donné une loi pour que la propriété revienne dans la famille. C'est ça que Naomi, elle connaît ces choses-là. Puis elle sait maintenant que cet homme-là, Boaz, lui, il est un proche parent, puis lui est capable de les ramener dans leur propriété, dans leur héritage. Puis c'est ce qu'elle voit que le Seigneur est en train de faire pour eux, là. Il est miséricordieux envers ceux qui sont vivants comme il l'a été envers ceux qui étaient morts. Donc, au verset 21, Ruth va lui rapporter les conseils que Boaz lui a donné. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit, Voyez-vous comment c'est important ici maintenant la parole de Boaz? Elle a gardé, elle a entendu la parole de Boaz. C'est lui qui lui a dit ça. Elle le rapporte maintenant. C'était marqué dans sa pensée. Elle dit, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Donc, elle a compris l'instruction de demeurer avec les serviteurs jusqu'à la fin de la moisson. Puis Naomi, elle l'encourage là-dedans au verset 22. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Donc, Naomi ici va l'encourager. Ruth lui a dit qu'est-ce qu'il lui avait dit. Puis Naomi va encourager qu'elle obéisse à l'instruction que Boaz lui a dit, parce que c'est le chemin vers la gloire, c'est le chemin vers la bénédiction qu'elle recherche. On sait que elle avait dit que elle mourrait avec Naomi, puis son peuple serait son peuple, puis son Dieu serait son Dieu, puis où elle allait être enterrée, c'est là qu'elle allait être enterrée. Puis elle cherche toujours dans sa pensée, elle a toujours en tête cette bénédiction-là, mais la bénédiction vient dans l'obéissance. C'est pour ça que, comme la loi, on ne peut pas être justifié par la loi. La loi, si on obéissait à la loi, ben ça donne des bénédictions quand même. Parce que d'obéir, de faire les choses que la loi nous dit, ça va nous aider dans notre vie, mais ça ne peut pas nous donner la justification. Parce que ce n'est pas par la loi qu'on va être justifié. Mais la loi, dans sa bénédiction, va nous conduire à Christ, va nous montrer notre besoin d'avoir un rédempteur. Mais quand on voit le rédempteur, ben, il s'agit d'écouter qu'est-ce que le rédempteur dit, comme Marie avait dit, hein, de faire quand ils sont venus à elle pour demander un miracle, ben, elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Obéissez-lui, puis vous allez être bénis. Puis c'est comme ça que Ruth, elle a ça dans sa pensée, puis Naomi l'encourage à obéir. Mais au verset 23, elle resta donc avec les servantes. Donc, ce n'est pas juste des paroles. Mais c'est les actions suivent les paroles. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson. Mais ça l'amène jusqu'à la fin de la moisson. Après l'orge, c'est le froment, comme il dit ici, jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Fait que, tant qu'il y a la moisson, ben, il y a l'abondance, puis il va avoir, elle peut glaner, elle peut ramasser les orges, après ça, elle peut ramasser le froment ou le blé. Puis ça nous rappelle aussi le blé. Le Seigneur Jésus, il a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Puis le Seigneur Jésus est ce grain de blé qui est tombé en terre. Puis il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Puis là, il produit toute une moisson. Puis quand il produit cette moisson-là, ben c'est ça qu'on parle de la moisson ici. Mais là, Ruth, elle voit ces choses-là, elle obéit. Mais après la moisson, elle ne pourra plus glaner. Ça va se terminer. Quand on a fini la moisson, ben, le travail est accompli. Pour l'homme qui, comme Boaz, il va avoir ses greniers vont être remplis de la moisson. Mais pour Ruth, ben, elle avait glané une maigre portion quand on le met sur toute l'année. Donc, elle arrive à la moisson, elle ne pourra plus glaner. C'est pour ça que là, elle va avoir besoin de la récompense entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme Boaz lui a souhaité ça. Au verset 12 du chapitre 2, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, c'est ça, il lui souhaite cette récompense-là. Puis elle va persévérer, même si elle arrive à la fin de la moisson, elle va persévérer pour chercher encore plus loin. Puis ça, c'est important de comprendre ça. C'est pourquoi elle va maintenant devoir chercher le repos qui va être le sujet du chapitre 3. L'histoire ne s'arrête pas là, là. Ça continue. On va de bénédiction en bénédiction. Puis pour celui qui se tourne vers l'Éternel, ben c'est ce qu'il trouve. Il retrouve bénédiction sur bénédiction. C'est pourquoi elle devrait maintenant chercher le repos. Ça va être le sujet du chapitre 3. Mais elle reste liée à sa belle-mère, quand même. On voit qu'elle dit ici, et elle demeurait avec sa belle-mère. Mais une chose qu'on. Naomi ici, elle représente vraiment. C'est comme le résidu juif. Qui va être sauvé à travers la tribulation. Parce qu'on sait qu'elle était partie avec son mari dans le pays de Moab. Les Juifs ont été dispersés à travers le monde. Là, ils sont revenus maintenant en 48 et ont eu leur pays. Mais ils étaient, ça, on parle d'un résidu qui, à la fin, va être. Puis il y a des gens qui ne croient plus ça aujourd'hui. Ils pensent que Dieu en a fini avec Israël, mais ce n'est pas la réalité. Dieu n'a pas fini avec Israël. S'il était miséricordieux envers Naomi, qui a pu revenir, puis qu'elle va trouver la bénédiction auprès de Boaz, mais elle représente ce résidu juif-là qui, un jour, va reconnaître son Messie, qui vont reconnaître leur Boaz, puis qui vont rechercher, mais elle vient avec une étrangère. Puis les Juifs aussi, ils vont revenir d'après ce que la miséricorde de Dieu a été envers les nations. Donc Naomi représente ce reste-là selon l'élection de la grâce qui va être réconciliée à son Messie. Mais le reste d'Israël va profiter de la miséricorde que Dieu a démontrée envers les païens pour qu'ils vont réaliser que cette même miséricorde, elle va être utile pour eux aussi. Ils vont en avoir besoin parce qu'ils ont désobéi. On va aller dans Romains 11. Puis, moi, je trouve tellement merveilleux le passage de Romains 9, 10, 11 qui nous parle de quand Israël, ils vont être réconciliés à leur Messie. C'est un peu comme Joseph quand on lit que Joseph a été réconcilié avec ses frères qui sont venus en Égypte. Ben c'est merveilleux. Mais on voit que dans les derniers, avant dans la tribulation, les Juifs aussi, il va y avoir un résidu, puis même la parole de Dieu, que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux qui vont survivre jusqu'à la fin, ils vont être tous sauvés. Puis il nous dit que tout l'Israël va être sauvé. Donc, si on regarde dans Romains 11, au verset 30 à 36, il nous dit ici, de même que vous avez autrefois, ça c'est, il parle à des païens, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, fait que nous autres, on était désobéissants à Dieu en tant que païens, et que par leur désobéissance, là il parle de la désobéissance des Juifs, d'Israël qui ont rejeté leur Messie, qui n'ont pas voulu se soumettre. Jean le Baptiste les amenait à la repentance, mais ils n'ont pas écouté Jean le Baptiste pour se repentir vraiment. Ils sont fait baptiser, mais il n'y avait pas la repentance dans leur cœur. Ils n'avaient pas reconnu leur désobéissance devant Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Mais maintenant, il dit, de même que vous avez autrefois désobéi, c'est sûr que nous on était des gens du dehors, on n'avait pas obéi à Dieu, mais il dit, et que par leur désobéissance, le fait que les Juifs ont désobéi, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Oui, parce que dans la désobéissance d'Israël, maintenant Dieu s'est tourné directement vers les nations. Puis il appelait, maintenant Dieu, il appelle en tout lieu que tous doivent se repentir. Passant par-dessus les temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant à tout le monde de se repentir. Donc nous, maintenant que Dieu s'est tourné vers nous, on a obtenu miséricorde. Fait que les Juifs étaient choqués de ça, de voir cette miséricorde-là qui nous était donnée à nous. Ils n'aimaient pas ça d'entendre parler que les nations se tournaient vers le Dieu d'Israël. Mais on va le voir plus tard. Mais il dit ici, de même, nous autres, on était désobéissants. Puis, à cause de leur désobéissance, on a obtenu miséricorde. Il dit, de même, ils ont maintenant désobéi. Donc, les autres, ils sont dans la. Nous autres, on l'était auparavant, on a obtenu miséricorde. Eux, maintenant, ils sont dans la désobéissance. Mais de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Quand ils vont réaliser leur désobéissance, ben, ils vont dire, notre Dieu est miséricordieux, il a fait miséricorde aux païens, qui étaient des désobéissants. S'il a fait miséricorde aux païens, qui étaient des désobéissants, ben, on peut chercher sa miséricorde. Il va nous faire miséricorde à nous aussi, ils vont réaliser leur désobéissance. Parce qu'il dit ici, au verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes, juifs et non juifs, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour les punir? Non, pour faire miséricorde à tous. Fait que c'est juste ça, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut juste reconnaître qu'on en a besoin. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on en a besoin, on ne trouvera pas la miséricorde de Dieu. Mais tout pécheur repentant qui s'approche du Seigneur va rencontrer la miséricorde de Dieu. Puis même tout enfant prodigue qui se tourne vers Dieu, dans la repentance, va rencontrer la miséricorde de Dieu, puis la grâce de Dieu. C'est ça qu'eux, ils vont réaliser qu'ils étaient désobéissants, puis ils vont trouver en Dieu la miséricorde dont ils ont besoin. Puis pourquoi? Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est le message de la Bible. C'est car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit des Juifs ou des païens, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous a donné un moyen de rédemption. C'est le même pour les Juifs comme pour les païens. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ça, c'est vraiment merveilleux. Puis ça va amener que toutes les rachetées, que ce soit des nations ou d'Israël, on va tout ensemble pouvoir célébrer quoi? Bien, célébrer la miséricorde et la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 33, il finit par, Paul ici, il finit par une louange à Dieu aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous savez, dans l'éternité, notre occupation, ça va être de louer le Seigneur, de parler de sa bonté, de parler de... Pourquoi? Parce qu'on en a été bénéficiaire. Que ce soit avec des Juifs, que ce soit avec des païens, on a tous eu besoin de la miséricorde de Dieu, qu'un peu comme le brigand sur la croix, qui a pu dire à l'autre, il dit, ne crains-tu point Dieu, toi qui subis le même châtiment? Puis pour nous, c'est justice, parce que c'est ce que nous ont mérité nos crimes. Mais se tournant vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Pensez-vous que cet homme-là, il n'aura pas le goût de parler de la bonté de Dieu pour l'éternité, puis de proclamer la louange de Dieu? Ben, nous autres aussi, ça va être la même affaire, parce que nous autres aussi, on savait que qu'est-ce que nous avions mérité nos crimes, c'était la perdition éternelle. Puis que maintenant, on a été fait miséricorde. Puis on va en parler un peu plus, pas ce soir, mais du résidu juif, comme Naomi qui représente ce résidu juif-là, qui s'était éloigné de Dieu, puis maintenant elle revient avec une païenne. Ruth, c'est Ruth la Moabite. C'est une païenne. Puis elle voit la miséricorde que Boaz a pour Ruth, qui est une étrangère, comme elle-même a dit, comment tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Puis il s'intéresse à elle. Ben, Naomi voit aussi que dans Boaz, que c'est la miséricorde de Dieu. Que si la miséricorde de Dieu est bonne pour Ruth, ben, elle est bonne pour elle aussi. Parce que Naomi va rentrer dans cette grande bénédiction-là aussi. Elle va pouvoir, on va le voir dans le chapitre 4, le repos de Ruth va amener aussi le repos de Naomi, qui va la réintroduire dans son héritage, qui va la réintroduire dans sa place que le Seigneur lui avait donnée, dans la lignée du Messie. Ça va être, c'est vraiment une grande bénédiction que le Seigneur va faire. Puis ça c'est le sujet de grande louange. Puis un chrétien qui n'est pas capable de louer l'Éternel, c'est parce qu'il n'a pas compris la miséricorde de Dieu. Quand quelqu'un reconnaît la miséricorde de Dieu, comment Dieu nous a fait miséricorde. C'est pour ça que la façon de s'approcher de Dieu, c'est dans la repentance. Le Seigneur dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parce que c'est pour ça que c'est le problème des gens religieux. Les gens religieux qui n'ont jamais reconnu leur besoin de la miséricorde de Dieu, ben, ils ne peuvent pas apprécier Dieu dans son caractère de miséricorde puis de grâce. Mais le pécheur, lui, qui a reconnu, qui a vu son péché, puis qui a eu besoin de cette miséricorde-là, ben lui, il peut apprécier, puis lui, il peut louer. En anglais, il y a un chant qui dit souffrez un pécheur qui ne peut pas s'empêcher de parler de la grâce de son sauveur. Puis c'est ça, un chrétien, c'est ça que ça devient. Quelqu'un qui est vraiment sauvé, il va aller proclamer. Comme la femme samaritaine, venez entendre un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, puis il m'a reçu, il m'a fait miséricorde. Puis son témoignage a été bon parce que les gens de la ville sont venus pour voir le Seigneur Jésus. C'est ça qui fait en sorte, hein, que quand on loue le Seigneur à cause de sa miséricorde, ben, les autres, ils viennent voir c'est quoi qu'on a reçu. Puis ça les attire vers, ça lui fait comprendre la miséricorde de Dieu, puis la grâce de Dieu. Parce que quand on voit, quand on est sauvé, on n'est pas mieux que les autres. On est tous des pécheurs. Mais quand on voit un pécheur qui a été gracié, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ben, il a connu la miséricorde de Dieu, il a connu la grâce de Dieu, puis il ne peut plus s'empêcher d'en parler. Hein, c'est ça qui arrive. Hein. Des fois, il y avait des gens qui disaient, oh, vous parlez rien que de ça. Ben oui, ça a pris notre cœur, ça l'a pris toutes nos affections. Pour nous, c'est devenu ce qu'il y avait de plus important, puis ça déborde. Comme, vous savez, le Seigneur Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que quand la miséricorde puis la grâce de Dieu fait l'abondance de notre cœur, ça peut pas faire autrement. Quand la bouche s'ouvre, ça sort. Puis c'est ça qui est important. On va s'arrêter là pour ce soir, mais c'est vraiment merveilleux. On voit que ça s'approche vraiment de la grande bénédiction que Ruth recherchait, puis que Boaz lui avait souhaité qu'elle trouve, comme il avait dit au verset 12. Hop, là, on n'est plus dans Ruth, je vais retourner dans Ruth. Au verset 12, il lui avait dit, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Fait que, Seigneur, bénisse ces paroles. Puis je vous donne maintenant la possibilité de reprendre votre micro. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire maintenant. On a un temps pour le faire. OK. C'est que si jamais vous avez un problème pour votre micro, faites-moi signe. Parce que ça arrive des fois qu'on ne peut pas le reprendre.
Je vais relire le verset, merci beaucoup Gérald. Le verset dans Romains 11, 36
Oui.
est vraiment beau.
Oui.
Ça m'a fait penser à un autre verset, mais je vais lire en premier. C'est de lui, c'est-à-dire de l'Éternel, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça me fait penser à ce verset qui dit, l'amour de l'Éternel consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Amen.
Merveilleux, hein?
Ouais.
Quelqu'un disait dimanche, miséricorde, ça vient du mot misère et cœur.
OK. Ouais.
Hein? Alors, notre cœur est dans la misère. Mais Dieu miséricordieux.
On rencontre le cœur de Dieu dans notre
Voilà.
misère. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, Raymond.
On voit aussi au verset 13 qui dit, quand elle parle à Boaz, elle dit, Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Quelle belle parole, quelle grâce. Elle dit, Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. On voit les paroles du Seigneur à travers tout ça, là. On voit que c'est comme si le Seigneur avait rentré en elle, l'Esprit du Seigneur avait rentré en elle pour dire de telles paroles. Il dit, Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Ben, on est comme ça. On est comme des serviteurs et des servantes du Seigneur à ce soir, là, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Et quand tu as parlé du psaume 136, c'est un psaume là, extraordinaire. Ça. Puis nous autres, on lit ça, là, puis ça nous touche. Mais il y a des gens qui lisent ça, là, puis ils le vivent. Parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Ça, je donne un exemple, parce que j'ai été quelques années en Haïti, travailleur humanitaire. Puis c'est ce chapitre qu'ils lisaient le dimanche là-bas. Puis il y a une histoire que je pourrais vous raconter parce qu'elle est courte. Il y avait une sœur là-bas qui s'appelait Hélène. Peut-être quelques frères de notre assemblée qui l'ont connue. On a des photos d'elle. Aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur. Puis ça m'avait touché parce que quand il disait ça, on voit au verset 25, il dit, C'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Puis on a vu ça ici avec Ruth. Eux autres, leur problème, ce n'était pas le logement, c'était la nourriture. Il y avait besoin d'une nourriture. Et en plus, non seulement ils ont eu de la nourriture physique, ils ont eu de la nourriture spirituelle. La nourriture qui venait du Seigneur. C'est extraordinaire, ça. Puis si on peut partager ça, là, on devrait tous lire ça, ce psaume-là, dans nos assemblées, tous les dimanches, parce que combien qu'on est comblé ici présentement. On est à chaleur, on a des bâtisses, on est en sécurité, mais pour des frères et sœurs dans d'autres pays dans le monde, lire ces versets-là, je te dis, ça doit serrer à gorge.
Une question, Gérald.
Oui.
Dans le verset 22, il est dit, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Qu'est-ce qui aurait arrivé si elle avait été dans un autre champ?
Ça aurait démontré que son cœur était partagé. C'est ça, quand on cherche le Seigneur, s'il devient l'objet principal, mais c'est pour ça que quelqu'un qui ne le recherche pas de tout son cœur, il ne verra pas ces choses-là, parce qu'il ne verra pas. Si elle avait été dans d'autres champs, c'est qu'elle n'aurait pas été, elle n'aurait pas eu une vision seulement pour Boaz. C'est qu'elle aurait pensé que dans un autre champ, elle aurait pu trouver la même chose. Mais on voit qu'elle n'aurait pas pu trouver la même chose dans un autre champ, parce que, comme Naomi lui a dit, cet homme est un de ceux qui ont le droit de rachat. Dans un autre champ, elle aurait pas, fait, son cœur n'était pas partagé à Naomi. À Ruth, son cœur était centré sur Boaz, parce qu'elle avançait de ce qu'elle connaissait de lui, de ce qui lui était révélé. C'est comme ça qu'un pécheur vient à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur nous parle des différents terrains, là. Quand on a, il y en a qui, quand ils entendent la parole, sont tout de suite excités de ça, mais quand il vient une tribulation à cause de la parole, ben là, ils s'en vont. Ou si les soucis de la vie viennent, ben ils perdent. Mais c'est seulement celui qui est dans la bonne terre, celui qui est vraiment centré, puis qui a un cœur entier à chercher le Seigneur. C'est lui qui. Le Seigneur dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Pensez-vous qu'elle aurait Ah, elle aurait perdu sa récompense aussi.
Ben
Si
oui.
elle était dans un autre champ,
Ben oui,
je
c'est ça.
pense que la parole nous enseigne qu'elle aurait perdu sa récompense.
Ouais.
Parce que
Ouais.
dans ce champ-là était le lieu de la bénédiction.
Exactement. Exactement. Puis si elle avait. Oh, OK, vas-y, Nadia.
Je m'excuse, j'ai peut-être une idée, mais vous me corrigerez
Ouais.
si ce n'est pas une bonne idée, ce que je vais dire. Mais cette période-là, c'était la période des juges. C'est une période où les gens faisaient tout ce qui leur semblait bon. C'était, les gens étaient vraiment mauvais. Moi, ce que je vois dans ce verset-là, c'est que Boaz voulait protéger Ruth le plus possible. Si tu vas ailleurs, tu vas te faire attaquer, là. Je vois un peu la protection de Boaz sur Ruth.
Oui, parce
Donc,
qu'il ouais, c'est ça, parce qu'il leur avait dit, là, il avait dit à ses serviteurs de ne pas j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher.
c'est ça. Mais, tu sais, même peut-être à travers les serviteurs à Boaz, il y avait des gens mauvais, méchants, mais encore plus aussi dans les champs, dans les
D'autres?
autres, dans d'autres champs. En
Ouais.
tout cas, je vois ça, là.
Oui, non, c'est bon.
Ouais.
C'est bon, oui. Parce que le Seigneur, il a un intérêt pour nous autres. Il nous cherche, fait qu'il veut qu'on aille vers lui. Mais si notre cœur est partagé, ben.
Si je peux juste apporter quelque
Oui,
chose dans la
oui.
même pensée, quand on voit la détermination de Ruth de suivre Naomi, puis de faire de son Dieu, je veux dire, elle peut compter que Dieu va la diriger.
Ouais. Oui, c'est ça. Puis aussi, pourquoi qu'elle aurait été ailleurs quand Boaz s'assurait qu'elle avait tout ce qu'elle avait besoin? Il était suffisant pour elle. C'est ça, quand Dieu est suffisant pour nous, on n'a pas besoin. Je dis ça des fois, je l'ai probablement dit ici. Ceux-là qui ont plusieurs dieux, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisants. Mais nous autres, on a juste un, puis il est suffisant, on n'a pas besoin d'autres. Fait que pourquoi aller à d'autres si on trouve en lui tout ce dont on a besoin?
On voit aussi que Boaz, c'est une belle image du Seigneur qui veille toujours sur nous. Hein? On voit la discussion qu'il y a eu, puis on voit au verset 14, au moment du repas. Au moment du repas, il dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau. On voit que la première conversation, c'est probablement au début de la récolte, au matin. Là, c'est probablement l'heure du midi, l'heure du repos. Le Seigneur est là. C'est une belle image que le Seigneur est là pour nous nourrir, pour se nourrir, un, physiquement, puis l'eau, on peut applaudir aussi, c'est l'esprit. Parce qu'elle dit tremble dans le vinaigre, il tremble, c'était ce qu'il en prenait pour se désaltérer. Le vinaigre, c'est un peu comme salé un peu. On voit que Boaz est là, comme le Seigneur est là aujourd'hui. Il est là ce soir, il nous entend, il nous voit, il nous nourrit, il nous guide, il nous conduit, il nous instruit, il nous corrige.
C'est ça. Ouais. Mais le Seigneur demande la séparation aussi, parce que la vraie union va demander la séparation. Parce que quand on, c'est la même chose dans le mariage, quand on s'unit, que la femme s'unit à un homme ou l'homme s'unit à une femme, mais on se sépare de toutes les autres. Puis ceux qui ne font pas ça, ils ont des problèmes. Parce que c'est le vrai amour demande la séparation. Parce que Boaz se sépare envers elle, puis elle, parce que dans un côté, Boaz était prêt à pouvoir la racheter parce qu'il n'était pas marié. S'il était déjà marié, il n'aurait pas pu la marier, mais là, il était prêt pour pouvoir racheter. Puis en même temps, on va le voir dans le chapitre 4, de prendre Ruth comme épouse. Fait que si lui se sépare, le Seigneur, il dit, je me sanctifie pour eux. Se sanctifier, ça veut dire se séparer. Puis le Seigneur, il est séparé pour nous autres. Le Seigneur, même dans sa résurrection, dans son ascension, il est allé nous préparer une place. Puis il s'est sanctifié, il intercède pour nous, il prend soin de nous. Fait qu'il nous demande la même chose en retour. Puis le vrai amour, comme Paul pouvait dire, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est que l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous doit être répondu par l'amour de notre part. Si on ne répond pas à cet amour-là, par l'amour, ben, il n'y a pas de relation. Ça demande.
Je trouve que Ruth ici est vraiment un modèle d'obéissance puis d'humilité. Parce que si on n'est pas vraiment humble, on trouve ça difficile d'obéir.
Oui.
Et elle obéit, puis la grâce du Seigneur est toujours sur elle. Puis dans l'image de Boaz, qui continue de lui donner toutes ses bontés là, pour la mettre en sécurité, puis à sa place. Et on va voir dans le prochain chapitre là, comment elle vit
Oui.
encore.
Parce que Boaz remarque ces traits-là de Ruth.
Ouais.
Ouais.
On
Il
voit
voit.
Thierry envers elle.
Ouais, c'est ça.
On voit son intégrité, mais on voit son humilité aussi au verset 13, quand tu as dit, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et
Ouais.
ça donne une leçon, parce qu'il faut vraiment oublier ça, qu'on n'était pas, nous autres, du peuple d'Israël, mais on a été rachetés à un grand prix, puis le Seigneur, il nous traite comme ses enfants, puis il nous donne notre part. Il faut jamais oublier que on n'était pas du peuple. Hein. Ça nous garde dans l'humilité, puis quand ça nous garde dans l'humilité, ça nous garde dans la reconnaissance, puis ça nous garde dans l'amour pour le Seigneur qui a vraiment, il nous a rachetés, puis quand il nous dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu à la fin de sa vie, c'est extraordinaire, c'est qu'il nous inclut dans cette communion-là avec lui.
Oui, exactement. Je pense que le temps est arrivé. C'est qu'on va terminer par un mot de prière. Puis s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra jaser après. Mais ceux qui doivent partir pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ta grande miséricorde envers nous. Seigneur, oui, on reconnaît vraiment que on doit s'approcher de toi dans l'humilité, Seigneur, parce qu'on ne mérite rien, mais tout ce qu'on réclame, c'est ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce, mais quand on rencontre ta miséricorde et ta grâce, on peut vraiment dire combien tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des grandes choses pour nous, Seigneur. Ton désir s'est porté vers nous, on l'apprécie, notre Dieu, puis on veut répondre à ce grand amour, comme le Seigneur Jésus a pu dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous a montré ton amour parce que tu as démontré ton amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies. Merci, notre Dieu. Puis oui, on te loue maintenant, mais on va te louer pour toute l'éternité à cause de ta miséricorde et à cause de ton amour et ta grâce. C'est dans le nom précieux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, bénis chacun de ceux qui sont ici ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.